José Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'offre financière à l'UFF. On va parler avec vous d'un sujet qui retient souvent l'attention en cette fin d'année, le sujet de défiscalisation. On reçoit souvent des spams dans ces boîtes mails à ce sujet. On n'y voit pas forcément très clair sur ce que ça veut dire. Déjà, quand on parle de défiscalisation, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'il faut parler d'autre chose?
Alors, on a nécessairement raison puisque c'est une des problématiques patrimoniales de nos épargnants et de nos clients, qui est qu'effectivement on a des revenus importants et on souhaite abaisser la pression fiscale. Maintenant, ce n'est pas tant une finalité en soi la défiscalisation que le moyen d'y parvenir qui va être important, et donc il y a différents choix qui vont s'offrir à nous pour obtenir cette défiscalisation, et là il faut des conseils avisés.
Donc quelque part on ne part pas bille en tête en disant il faut que je défiscalise, mais quelle est ma stratégie patrimoniale pour l'année qui vient, pour les années qui viennent?
Absolument. D'abord, quel épargnant suis-je, c'est-à-dire quelle est mon appétence au risque, et à ce moment-là je vais plutôt choisir des solutions immobilières, des solutions en actions, des solutions en forêt par exemple, et puis ensuite c'est quel est mon horizon de temps. Quels sont mes moyens, et donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour pouvoir déterminer quelle est la bonne stratégie de défiscalisation finalement.
Donc je ne prends pas en tête le mail qu'on reçoit avec vous avez tant de réduction d'impôts, ça ne veut rien dire.
Ça veut dire qu'effectivement il y a une réduction d'impôts, après il faut regarder ce qu'il y a derrière, parce qu'une solution de défiscalisation c'est avant tout un actif derrière, c'est une solution de placement, et donc tout ne se ressemble pas, d'abord sur la typologie de solution, et puis ensuite il y a beaucoup d'intervenants pour chacune de ces solutions, et donc il faut être sélectif, et donc il faut aller se renseigner un tout petit peu plus pour savoir ce qui nous est proposé et si ça correspond à notre besoin.
Il devait y avoir une grande réforme fiscale qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu quand même quelques modifications. Qu'est-ce que ça amène pour les particuliers aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au global?
Alors, en fait, entre 2009 et 2015, on a divisé par 4 le plafond des fameuses niches fiscales. On est passé de 45 000 à 10 000, ce que j'appelle moi le plafond de droit commun. Sitôt que vous avez une femme de ménage, une nounou pour les couples avec des enfants en bas âge, et puis que vous avez fait une opération par exemple de défiscalisation immobilière qui va donc vous permettre de défiscaliser sur 6, 9 ou 12 ans, vous pouvez arriver très très rapidement au plafond des 10 000 euros. Et donc ensuite vous avez des solutions qui vous permettent d'aller au-delà du plafond des 10 000 euros, des solutions de réduction d'impôt, c'est-à-dire que le montant va directement être défalqué de votre impôt final. Et puis si jamais ça ne suffit pas, vous avez également des solutions de déduction d'impôt, c'est-à-dire que le montant que vous investissez va être retiré de votre revenu imposable, ce qui va vous permettre encore une fois d'aller plus loin. Donc il y a en gros 3 étages à la fusée pour pouvoir défiscaliser au maximum.
Alors on peut commencer peut-être par l'immobilier locatif. Là aussi on reçoit beaucoup d'offres de ce point de vue-là. On a vu parfois des mauvaises surprises quand les loyers étaient un peu, j'irais, surélevés dans certaines zones. Là vous parlez de SCPI Pinel par exemple, ou Malraux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de produit?
Alors, on arrive en fin d'année, donc typiquement, un bien immobilier physique ne peut plus permettre une défiscalisation puisque vous avez la date de signature chez le notaire, vous avez en plus des biens qui sont souvent en vente en l'état futur d'achèvement, donc c'est quand même une opération qui est assez impliquante. Et si vous vous réveillez un peu tardivement, vous avez la possibilité de le faire via des véhicules collectifs qui vont en fait investir dans des immeubles. Vous allez donc être propriétaire d'une part d'un patrimoine immobilier diversifié et ça va vous permettre d'avoir peu ou prou les mêmes avantages fiscaux que si vous achetiez un bien en direct Pinel, que ce soit en neuf ou en ancien rénové, ou bien en secteur sauvegardé comme le Malraux. Donc c'est vraiment une solution qui est assez satisfaisante quand vous arrivez début décembre et que vous n'avez pas d'autre choix que de devoir vous reporter vers cela. Mais vous pouvez également acquérir les biens en direct, physique, mais à ce moment-là, il faut s'y prendre un petit peu plus tôt. Donc vous avez des avantages fiscaux pour le Pinel qui va jusqu'à 21% du montant investi dans la limite de 300 000 euros sur 12 ans. Et puis le Malraux, vous avez la capacité de défiscaliser 30 000 euros dès la première année, puisque c'est 30% des travaux réalisés dans la limite de 100 000 euros par an sur 3 ans. Donc ça peut aller jusqu'à 90 000 euros. Donc vous voyez qu'on parle là de montants assez conséquents. Et pour le Malraux, vous êtes au-delà du plafond des 10 000. Donc finalement, vous pouvez aller jusqu'à 40 000 euros de défiscalisation en direct.
Alors on a aussi beaucoup parlé du financement des PME, là vous en parlez via les FIP, les fonds d'investissement de proximité.
Ça fait.
Là, il y a un blocage des fonds pendant une durée certaine.
Alors effectivement, lorsque vous achetez un FIP ou un FCPI, d'ailleurs c'est un peu la même chose, il faut savoir que vous êtes parti à minima sur 7 ans et plutôt aux alentours de 9 ans, on est sur du capital investissement, donc il faut du temps pour que ces petites pépites qui sont sélectionnées par le gestionnaire puissent donner le maximum de potentiel de croissance. Et donc, il faut laisser le temps à la société de les acquérir à un bon prix et de les vendre à un bon prix. Donc, il faut partir sur le fait qu'en gros, sur une dizaine d'années, vos avoirs sont bloqués. Et donc, cette immobilisation-là, vous ne pouvez pas la récupérer. Hein.
Autre produit alors, qui est bien connu aussi, celui-là pour ceux qui s'intéressent au cinéma, les Sofica. On voit souvent ça dans les films, hein, les financements de films avec ces Sofica. C'est toujours intéressant les Sofica, on en parle encore.
C'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour la diversification que ça présente. Globalement, lorsque vous avez acquis de l'immobilier défiscalisant et puis plusieurs générations de FIP ou de FCPI, et bien c'est bien de diversifier un peu sa poche que j'appellerais d'actifs défiscalisants. Le cinéma, c'est un modèle économique complètement différent d'une PME ou d'un immeuble. Vous avez une réduction fiscale qui est intéressante, hein, puisque c'est 36% du montant investi dans la limite de 18 000 euros. Et effectivement, ça fonctionne un peu différemment d'un placement traditionnel. Hein. C'est un peu un placement citoyen parce que ça permet de soutenir l'exception culturelle française, le cinéma français. On sait qu'on ne récupérera jamais 100% de sa mise de départ puisque tous les films ne peuvent pas être des succès. Mais l'avantage fiscal est tel qu'à la sortie, ce que l'on appelle le taux de rendement interne, le TRI final, c'est-à-dire ce que vous allez gagner entre la défiscalisation et la valorisation de votre investissement à la sortie, est en général assez intéressant et vous permet d'avoir un rendement qui soit raisonnable.
Mmh. Un autre sujet forcément d'actualité, la retraite. Là, on a les produits PERP, les Madelins, selon les catégories de salariés ou de gérants qui sont concernés. Là aussi, c'est un véhicule dans le cas d'une diversification possible.
Absolument. Alors, c'est un véhicule intéressant. C'est un peu l'État qui sponsorise votre retraite. Là, on ne parle plus de réduction, mais on parle de déduction. Que vous soyez indépendant via le Madelin ou que vous soyez salarié dans le privé via le PERP ou d'ailleurs via des contrats article 83 qui sont souscrits par l'entreprise pour le compte des salariés, puisque le PERP et l'article 83 fonctionnent un peu de la même manière. Et il faut savoir qu'au-delà de revenus supérieurs à 38 000 euros, vous pouvez aller jusqu'à déduire de votre revenu imposable une trentaine de milliers d'euros chaque année, et vous pouvez même récupérer les trois années précédentes pour vous et pour votre conjoint. Et lorsque vous investissez sur le contrat, effectivement, vous avez la contrainte de la rente à la sortie, même si le PERP vous permet de sortir 20% en capital. C'est un peu une retraite malgré vous, mais ça vous permet d'être certain d'avoir un complément de revenus. Donc vous joignez l'utile à l'agréable, vous défiscalisez l'année N et en même temps vous préparez votre retraite pour les années futures.
Mot de la fin, en France on n'échappe pas à l'ISF pour ceux qui arrivent à un niveau de patrimoine conséquent. Là aussi il y a des possibilités de réduire cet ISF.
Absolument, alors on parle souvent de l'ISF en mars-avril quand on commence à préparer les déclarations. Nous ce que l'on propose c'est plutôt de commencer plus tôt. C'est-à-dire que si vous souscrivez un produit ISF d'ici la fin de l'année, vous gagnez au final un an, puisque la société de gestion, elle, investit avant la fin de l'année, avant le 31-12. Et donc, si vous investissez en avril de l'année prochaine, eh ben, vous avez une année supplémentaire de délai pour récupérer vos capitaux. Donc, vous pouvez quand même aller jusqu'à 50% de réduction dans la limite de 90 000 euros de versement, ce qui est quand même non négligeable. Et donc, au moment où on parle d'IR, ben, c'est aussi bien de parler d'ISF parce que ça permet de gagner du temps.
Merci José Fernandez d'avoir fait le point avec nous.
Merci.